tonton.
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligent pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Underground.
Vous écoutez Verveine Underground sur Europe 1 et on est ensemble jusqu'à 22h. Et ce soir, je suis avec une légende du rap français, une légende vivante, Mystique, M-Y-S-T-I-K. On s'arrange, tu connais, comment ça va?
Ça va très bien, mon loup, et toi?
Je suis tellement content de te recevoir. Tu fais partie des artistes qui ont bercé mon adolescence, ma vie d'adulte et mon vieillage maintenant. Et je suis content de ton évolution. On va raconter ton parcours incroyable dans un instant. Tout à l'heure, on a écouté Le Fruit défendu avec Karine. Désormais, tu organises des ateliers d'écriture thérapeutique. Tu t'intéresses à l'art-thérapie. Tu as également fait partie du collectif Bisson à Bisson. Tu as rencontré Nelson Mandela. Tu as fait le tour du monde. Tu as fait rayonner la culture française et congolaise et l'écriture à travers le monde entier. Maintenant, tu as passé un diplôme universitaire de formateur en atelier d'écriture. Et depuis plusieurs années, tu interviens dans les centres éducatifs fermés, des établissements scolaires, des maisons de retraite, des entreprises, mais également en prison. Ton histoire, elle est incroyable. On va la raconter par le début. Est-ce que ça te va?
Écoute, ça me va et je suis déjà très honoré d'être là.
Mais non, c'est moi. Je le dis souvent, il faut rendre hommage à nos légendes dans cette culture et tu fais partie des gens qui l'ont construit. Et c'est grâce à toi aujourd'hui que d'autres artistes arrivent à évoluer, prendre la plume et la liberté parce que tu as été un défricheur.
Merci.
Mystique, né en 1978 à la Pointe-Noire au Congo. Ta maman est partie vivre en ex-URSS. C'est ta grand-mère qui t'a élevé. Tu as grandi dans un univers très musical. Dès ton plus jeune âge, tu es aussi entouré de livres, ce qui te permet de développer un intérêt pour l'écriture. Tu dis que très tôt, tu as eu des livres importants et puissants à lire.
Il y avait des livres à la maison.
Ouais.
Il y avait des livres à la maison. C'était de la sociologie, ouais. C'était des auteurs africains, c'était des gens comme Franklin Boukaka. Ouais. C'était, voilà, j'ai baigné un peu là-dedans.
Tu arrives en France en 1989. À l'âge de 11 ans, tu t'installes avec la famille à Meaux, en Seine-et-Marne. En grandissant, tu fais de la danse. Mais c'est pas ça qui te touche en premier. Tu commences le graffiti. T'as pas d'argent pour acheter les bombes, comme la plupart des graffiti artistes. Hein. On va pas se mentir. C'est ce qui fait d'ailleurs l'identité d'un vrai graffiti artiste. Tu tentes ensuite d'être DJ et t'es pas non plus très à l'aise. Mais tout de suite, très vite, c'est l'écriture qui prend le dessus.
Tout de suite, oui. Au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'exemple. Dans le quartier où j'ai grandi, à Beauval, à Meaux, il n'y avait pas des gens qui avaient déjà vraiment fait avant moi. Il y avait des grands qui avaient organisé un festival qui s'appelait Hip Hop Dixit. Mmh. Donc, c'était un peu une espèce de légende pour le jeune que j'étais. Et puis, voilà, j'ai essayé. Je trouve que c'est d'ailleurs très intéressant que tu parles de la culture parce que souvent, on approche le hip-hop comme une danse, alors qu'en réalité, c'est une culture qui englobe le beatboxing, le rap, la danse, le DJing et le graffiti. Et
moi, j'ai
essayé, voilà, c'est important parce que les mots ont un sens et j'ai essayé de voilà, toutes les disciplines. Et ouais, la danse, j'étais pas bon. J'ai des amis, Fantastic Armada qui sont devenus des vice-champions du monde. J'ai essayé et puis moi, c'est surtout l'écriture et qui m'a saisi, quoi.
Et surtout, tu fais partie de cette génération qui est quasiment la même que la mienne. Toi, tu fais partie des grands frères, mais ou tout de suite, c'est quelque chose qui t'a parlé, en fait. Comment est-ce que ça a cliqué?
Ça a cliqué parce que déjà au départ moi j'aime la musique et puis donc moi j'aimais beaucoup Patricia Cass, j'aimais beaucoup François Feldman et plus les chanteurs de mon pays d'origine, le Congo. Mais ce qui va percuter ma vie, c'est Rapline avec Olivier Cachin. Et là, en fait, ça va être la fenêtre en fait qui va nous ouvrir vers cette culture et puis une espèce de proximité, parce que ce que je vois sur M6 à l'époque, je vois des gens qui physiquement nous ressemblent, ils habitent dans des endroits qui nous ressemblent, et puis comme des super-héros un peu. Ils ont des attitudes, tu te souviens de Public Enemy quand ils sont arrivés,
Public Enemy, même les premières vidéos de solo d'Assassin.
Exactement, en France aussi, tu vois, toute cette génération là, IAM ou NTM, et voilà, donc tout ça a percuté. Et et je me sentais à ma place.
C'est voilà. Intéressant ce mot super-héros, parce que le super-héros a une fonction. C'est une fonction d'identification, une fonction de sublimer, et de souvent de sublimer le quotidien, ou de sublimer ses la nature humaine avec ses angoisses ou ses forces. Et qu'est-ce qu'il y avait de super héroïque là-dedans, en fait? Pourquoi est-ce que tu dis c'était des super héros? Pourquoi Joe Star, Kool Shen, Akhenaton, Shuriken pouvaient être des super héros?
Parce que en fait on évolue dans des environnements où on a rapidement, comme si on avait besoin de porte-parole, on avait besoin de leader, parce qu'on a la sensation que ce qu'on vit, ça nous paraît pas juste, et on a personne qui en parle vraiment. Donc une espèce de manque de considération. Et puis là t'as cette culture qui fait naître en France des gens justement comme Joe Star, avec une attitude. Tu vois, Joe Star, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais c'est l'attitude, en fait, tu vois. Et des gens comme The Squat, tu vois, comme Rockin' Squat, c'est tout de suite, ils ont un propos, ils ont quelque chose à dire. Et puis surtout, ce côté, ils se distinguent des autres genres musicaux parce qu'ils assument vraiment qui ils sont et ce qu'ils disent. C'est pas que pour eux, ça nous représente.
Et puis aussi un rapport au déterminisme. Souvent, la banlieue, on disait cité dortoir. On était bon qu'à venir travailler, dormir. Là, on découvre qu'on est capable de produire de la culture, de faire de la musique, d'être finalement également à l'affiche, alors qu'on n'était pas prédestiné à ça.
Après, il faut être un peu humble. À cette époque-là, moi, je suis un jeune de Beauval, j'ai pas la pleine conscience du déterminisme ni quoi que ce soit, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là qui sont là avant moi vont dresser un espèce de chemin, ils vont nous aider à nous trouver et à comprendre que l'art qu'on pratique a une utilité.
Et 20 ans plus tard, est-ce que tu en as conscience?
20 ans plus tard, j'ai conscience. J'ai conscience de la portée de ce qu'on a fait. Et je pense qu'il y a encore tout à faire, c'est pas fini. Parce que on fait partie de cette culture qui ne fait que faire éclore chaque année, chaque semaine, des artistes qui au-delà de leur talent, arrivent à impacter la société entière.
Et aujourd'hui, quand tu prends avec ta carrière qui est paradoxalement en dents de scie, parce que ça a explosé très vite, très très jeune, il y a eu à chaque fois que Mystique arrivait quelque part, tu progressais, il y a eu des moments d'absence, il y a eu des moments où on t'a revu. Aujourd'hui, c'est une question que j'aime bien poser à des artistes. C'est quoi pour toi une carrière, en fait? C'est quoi ta définition d'une carrière?
Si je reviens sur moi, Mouloud, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Je n'ai jamais pensé ce que je faisais en termes de carrière. Je vais découvrir ça quand je vais intégrer le Bisson Abisso. Donc là, avec des gens un peu plus professionnels, qui ont déjà eu des disques d'or, qui ont déjà un vrai passif, tu vois. Mais je pense que moi, j'ai toujours aborder les choses c'est un élément culturel, c'est un outil, une arme culturelle qui permet en fait de décrire ce que nous vivons en réalité. Après, en termes de carrière, forcément c'est en lien avec la durée. Je pense que c'est en lien avec la durée. Et moi, je préfère plutôt parler de parcours artistique en ce qui me concerne. Tu vois, jamais pensé vraiment en termes de carrière.
Parcours artistique, parcours de vie. Mystique, c'est également un mot que j'aime bien utiliser, qui est une certaine mentale. Quelqu'un aussi qui évolue avec une certaine mentale, avec certains codes, qui sont des codes de quartier qu'on avait à l'ancienne. Et à l'ancienne, à cette époque-là, dire qu'un rappeur était commercial, c'était le condamner. Aujourd'hui, c'est l'encensé.
Écoute, très, très tôt, effectivement, dans mon histoire, moi, je vais avoir un grand succès avec le morceau qui est Le Fruit Défendu. J'ai tendance à le dire, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui se passe derrière. Il y a eu des moments où c'était compliqué pour moi, en fait, parce que je fais partie de cette culture où on a des choses à dire qui nous semblent importantes, intéressantes. Et puis de l'autre côté, il y a ce succès inattendu qui arrive et on découvre tout avec ça, les interviews, les radios, les plateaux télé. Et on n'a pas de modèle avant ça. Donc en même temps qu'on découvre tout ça, on découvre aussi, à titre personnel, je découvre aussi la dureté de mon propre milieu. C'est-à-dire, on va me coller aussi cette étiquette d'artiste commercial. Alors que tout ce qu'on est en train de faire, c'est justement commercial.
Mais moi, tu sais, à l'époque, je vais te faire une confidence, je travaillais dans un journal de rap.
Ouais.
Où j'avais eu à ton sujet une accroche avec d'autres journalistes en réunion d'action.
Okay.
C'était au moment où tu venais de faire Le Fruit Défendu. Il y avait une réédition de l'album qui était prévue.
C'est ça, avec 2-3 voilà. 4 titres, je crois.
Et je disais, il faut faire un gros truc sur Mystique. Et eux me disent, mais Mystique, c'est commercial. Et là, je voyais en face de moi 5-6 personnes qui avaient fait des écoles de journalisme alors que moi non. toi qui venais du 77 et moi de pas très loin dans le 93, et je me dis, vous vous rendez pas compte le parcours du mec? C'est ces parcours-là qu'il faut raconter, c'est pas vos histoires à vous qui vont juger ses histoires à lui.
Et c'est pas pour rien que 20 ans plus tard on se retrouve.
Et ça fait plaisir.
C'est pas pour rien que 20 ans plus tard on se retrouve, alors merci beaucoup. Mais je te dis, j'en ai souffert de ça, tu vois, cette étiquette-là. Donc en fait, c'est une vie parfois à arracher les étiquettes, mais au final, en vrai, en restant authentique, en restant soi-même.
Mais qui les met, ces étiquettes, en fait? Qui a intérêt à te disqualifier, en fait? Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est souvent, j'ai l'impression que les quartiers, c'est ceux qui en viennent le moins, qui en parlent le plus.
Bah parce qu'il y a un fantasme aussi. Il y a des gens qui regardent les choses avec à partir des yeux de leur fantasme. Et nous, on faisait que raconter ce que nous étions. Donc moi, quand je fais le morceau Le Fruit Défendu pour venir à celui-là, c'est l'un des morceaux les plus hardcore du rap français. Et j'aurais voulu ne pas l'écrire. Tu vois, ça décrit une réalité où moi j'ai vécu quelque chose, où on ne m'accepte pas dans une famille.
Raconte-moi la jeunesse de ce morceau. Parce que c'est aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, un des morceaux français, de rap français qui touche le plus de monde.
J'en suis très honoré. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu encore une artiste assez jeune qui a mis ça en l'honneur. Je lui souhaite une très très belle carrière. Et puis, écoute, ça c'est une histoire vraie. Je suis au collège, je suis amoureux d'une fille. Et puis, on est amis au départ. Et puis, arrivé au lycée, cette histoire d'amitié se transforme en quelque chose de plutôt sentiment amoureux. Et puis, il y a beaucoup de gens dans le quartier qui nous connaissent, qui connaissent cette histoire-là. J'essaie de mettre des mots avec beaucoup de pudeur parce que elle est mariée aujourd'hui, elle a une famille, elle a des enfants, donc je souhaite plein de bonnes choses à elle et à sa famille. Donc c'est pour ça que je fais attention un peu aux mots que j'utilise pour ne pas
froisser
parce que c'est important. Mais en tout cas, arrivé au lycée, cette histoire se transforme en sentiment amoureux. Et puis je vais vite comprendre que dans sa famille on veut pas de moi parce que je suis noir. Et il y a des gens dans mon quartier qui vont commencer aussi à me tourner le dos quand j'arrive dans certains endroits parce que je suis noir. C'est comme si c'était ce noir qui vient arracher une fille de notre communauté. Et ça a été difficile parce que les jeunes que nous étions simplement amoureux au-delà de l'épiderme. On n'était pas du tout dans ces considérations-là. Et j'étais en train de faire un album et puis mon label, Cercle Rouge à l'époque, les compositeurs, c'était White Spirit, ils faisaient des musiques et moi j'arrivais en studio en fonction des textes que j'avais.
Et là,
je choisissais la musique. Et là arrive un morceau avec cette belle mélodie, je ne sais pas du tout ce que c'est, et je me dis que cette mélodie-là, ce texte, cette note-là irait bien avec un texte que j'ai. On essaie, je pose mes voix, puis je leur dis, je parle moi de mon histoire, ça serait bien qu'il y ait une fille qui vienne répondre un peu à ce que je raconte.
Et là, c'est Karine qui arrive.
Et là, c'est eux qui me parlent
de Karine, l'histoire.
La suite de l'histoire, on la connaît, tu vois.
Mais moi, j'ai envie de revenir vraiment sur le fond du morceau, sur ce mal qu'il y a, ce racisme qu'il y a dans nos communautés. Parce que on peut grandir ensemble, mais ce morceau, Le Fruit Défendu, on voit que toi, t'es tombé de très très haut en disant, mais moi je pensais qu'on était tous ensemble, quelle que soit notre origine, notre couleur, et tout d'un coup vous me ramenez à une condition alors qu'on se disait on est frères, on est tous ensemble.
C'est exactement
ça. Et
que
tout d'un coup, il n'y a plus rien qui existe.
C'est exactement ça. Et tu tombes de haut et ça fait mal. Et en même temps, il y a aussi, j'ai à peine 19 ans, je pense, tu vois, et il y a aussi les codes du quartier. Donc, faut tenir une certaine attitude. Il y a un certain, une réputation. Et en même temps que moi, de l'autre côté, mon histoire de rap grandit. Il y a cette histoire-là que je vis qui arrive. Ça a été très difficile parce que les gens qui partagent mon quotidien dénoncent ce racisme-là. Et tu te rends compte que 20 ans plus tard, on est encore dedans. On est malheureusement encore dedans.
Il faut condamner la négrophobie, quelle que soit notre origine. C'est une histoire de négrophobie, ce morceau.
C'est une histoire de négrophobie, c'est une histoire aussi de différence, en fait. Je pense que moi, je suis né au Congo, je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. On m'a appris, peut-être à l'école ou dans la vie, que en fait, il fallait qu'on était tous pareils. Tu vois, du haut de mes 43 ans, je pense que c'est pas vrai, on n'est pas tous pareils. Il faut apprendre très tôt aux gens à accepter les différences des autres. Et c'est ce travail-là qu'on devrait faire, en fait. Parce que le fait de dire on est tous pareils, on crée un tiroir dans lequel on enferme tout le monde et il n'y a plus de particularisme.
Il y avait une idéologie derrière ça aussi.
Derrière le morceau ?
Non, derrière le fait de nous faire croire qu'on est tous pareils.
Bah certainement.
C'était une manière aussi de nous écarter de position, nous écarter de réflexion, d'autodétermination.
Totalement.
C'est la mentalité d'SOS racisme, d'une certaine gauche.
On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Et ça prend du temps, tu vois, ça prend du temps pour comprendre certaines choses. Et puis là, moi, l'artiste que j'étais, le jeune que j'étais, l'homme que je suis, analyse les choses avec mon prisme poétique, on va dire, tu vois. Mais on est en plein dans ces questions-là, oui.
Et ce qui est dingue, c'est qu'un morceau qui a été un des plus grands tubes est encore aujourd'hui un des morceaux, comme tu le dis, les plus hardcore et les plus politiques.
Et surtout, les témoignages.
Et les plus universels.
Et, ben, en fait, tu sais, il est universel parce qu'en réalité, même on va jouer ce morceau au fin fond du Congo ou au fin fond du Mozambique, il aura un impact. Parce qu'en fait, tout ce qui part du cœur, et que si c'est sincère, ça touche l'universel.
On va écouter un artiste universel qui fait partie de tes influences et que tu l'as amené dans ta playlist. C'est Franklin Bukaka. Le morceau s'appelle « Pont sur le Congo ». Ça fait partie des gens que tu as écoutés quand tu as commencé à rapper. Et on l'écoute tout de suite dans Verven Underground, « Pont sur le Congo ».
Sakonangai, bona unité oya Congo, tolanda mi beko mia Lumumba, de kisasana brasa toyokana, bandeko bangai, Congo lelo Congo monene, lelo solo tomoni na biso, andenge mbuka na biso ebongi. Sakonangai, ona unité oya Congo, tolanda mi beko mia Lumumba, ekisasa na brasa toyokana. Bandeko ya ngambo na ngambo, bosimba na bosala lokumu ya Congo na biso.
On vient d'écouter Franklin Bukaka, Pont sur le Congo, dans Verven Underground, choisi par notre invité Mystique. Mystique, donc je rappelle, l'histoire elle est incroyable. On a parlé de ce tube, Le Fruit Défendu. Ensuite, il y a l'aventure Bisso na Bisso, la tournée avec Passy, Les Deux Balles. Il y a qui encore? Il y a Arsenic.
Arsenic, Benji Negmaron.
Benji Negmaron.
Et la cousine Passy.
Il y a Calbo qu'on a reçu, vous pouvez écouter l'émission avec Calbo en podcast, qui nous raconte la rencontre avec Nelson Mandela, il le raconte dans son livre. Est-ce que toi tu peux nous raconter ta version de la rencontre? Parce que j'ai l'impression que tout le monde, tous les membres du Bissot ont une version.
Après avoir écouté ton émission, je suis retourné dans le livre que j'ai pas, que voilà, que je suis en train de finir là. Et moi, les Mandela, c'est juste, déjà qu'on y est. On a mis des costumes pour l'occasion. Et des mecs de quartier qui mettent un petit costume avec une cravate, ça se voit direct, c'est un peu chelou parce que la cravate, elle est pas, tu vois, comme il faut. Et c'est ça que j'ai comme souvenir. Puis on arrive là-bas. Et puis, comme je te disais, moi, je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. Là, j'ai dû appréhender la langue française et c'est surtout une prise de conscience. On arrive là-bas, ça se passe à Sun City. On a ce mec grand qui est emblématique, quoi, tu vois. Et puis moi je me souviens lui avoir dit je viens de très loin, ma mère elle est partie très loin, et c'est parce que j'ai la passion de l'écriture, je me retrouve là devant vous, je suis honoré. Il a juste esquissé un sourire et tu vois, c'est juste ça que j'ai gardé. Et suite à ça, Mouloud, en revenant dans mon quartier, j'ai pris conscience de l'importance de l'acte d'écrire. C'est après ce séjour-là en Afrique du Sud, et je commence à observer mon quartier, à voir en fait qu'il y a des choses que nous faisions déjà naturellement, organiser des tournois de foot avec nos petits sans spécialement avoir des diplômes d'animateur ni quoi que ce soit. Et moi, j'ai voulu commencer à transmettre après ce séjour-là.
J'aimerais qu'on écoute un de tes camarades, Oxmo Puccino, qui parle de l'écriture et de son pouvoir.
Vraiment une vision de l'écriture qui est assez mystique.
C'est-à-dire ?
Pour moi, c'est un pouvoir magique, l'écriture. C'est-à-dire qu'avec un bon texte, vous pouvez changer beaucoup de gens. Vous pouvez changer le monde, vous pouvez causer une guerre avec un mauvais texte. Avec une bévue, avec une incompréhension. Quand je vois les retours que j'ai sur des textes que j'ai écrits il y a des années, pour moi c'est assez magique, parce que le seul but, c'était de les écrire, pour en garder une trace, de trouver des solutions qui peuvent m'aider moi, divertir les autres, dans le meilleur des cas, mais pas plus.
Oxmo Puccino, des propos recueillis par Anthony Chélan pour Clic. Est-ce que tu corrobores, Mystique ?
Totalement. C'est un honneur. C'est quelque chose qui peut, là où je suis d'accord avec lui, qui peut changer. Tu vois, quelque chose qui peut changer quelqu'un. Et puis, Oxmo, en tout cas, c'est vraiment le digne héritier des grands poètes, quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre culture, qui fait beaucoup pour notre culture. Et encore, dans une de tes émissions dernièrement, du haut de mes presque 44 ans, Oxmo m'a permis de comprendre certaines choses. Il a fait une intervention là,
un
texte sur l'art de refuser.
Ouais.
Il est magnifique.
Super texte.
Voilà, vraiment, vraiment, j'encourage tout le monde à aller écouter ce texte d'Oxmo chez Clic, où il parle de l'art de refuser. Les mots justes, la pertinence et surtout la résonance dans nos vies. Donc il est bien placé pour parler du pouvoir de l'écriture.
Et toi, est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu penses que tu aurais dû savoir dire non ?
Oui, énormément. Moi, j'ai un cœur un peu spécial, énormément. Écoute, on ne se refait pas, donc du coup, on apprend, on tombe, on se relève et on apprend. Mais en même temps, c'est ce qui aussi construit. C'est aussi ce qui me permet aujourd'hui, alors que je ne suis pas en activité rapologique, il y a énormément de gens qui reconnaissent mon apport. Il y a énormément de gens qui font un témoignage positif de mon parcours, par rapport aux actes que j'ai posés, par rapport à cette ligne, justement, cette justesse, cette pertinence, cette espèce de rectitude, en tout cas dans l'écriture, tu vois, et de sincérité, c'est le mot qui revient souvent.
Tu fais partie des rares artistes où, en fonction du texte que tu poses, on peut savoir comment ça va dans ta vie. Souvent, les moments où t'es le plus chaud, on se dit oh là là, ça va pas fort.
Non, mais c'est vrai. Exactement ça. C'est exactement ça.
À quoi ça tient, en fait ?
Ça tient, je pense, à la connaissance de soi. Quand on se connaît, en réalité, on n'a pas besoin d'en faire trop. Il suffit d'être radicalement soi, en fait. Tu vois, le fruit défendu dont on parlait, il sort en 2000. Et en 2000, tu te souviens, le rap, l'odeur, le parfum qu'il avait. J'arrive avec un texte comme ça, avec c'est courageux. Autant que c'est courageux de prendre la parole, de livrer le cœur, c'est pas un acte facile, tu vois. Donc voilà, la sincérité, ça vient de mon éducation. Ça vient de ma maman qui m'a toujours dit, en fait, de dire ce que je pense. Tant que c'est dit avec les bons mots, tant que c'est dit avec respect et que c'est pas pour mettre l'autre mal à l'aise, livre ton cœur.
Il y a une autre facette de Mystique, c'est une facette plus agressive, plus street, plus dure. Et j'ai toujours voulu t'interroger sur un moment où je me suis dit, qu'est-ce qui traverse dans sa vie à ce moment-là pour être dans cet état-là de colère? C'était sur le morceau Soit Hardcore Remix de Stomy Bugsy.
Waouh!
Où t'avais une voix d'outre-tombe.
Waouh!
Venue de nulle part.
Ah, tu me donnes une belle opportunité là.
Et tu sais très bien de quoi je vais te parler.
Ah, je pense savoir. De monsieur.
Bruno Bozir. Que tu insultes dans ce morceau, et je me suis dit, wow, ça ressemble pas à Mystique.
Waouh. Eh, t'es incroyable. Tu sais quoi? Pour les gens qui nous écoutent, alors, Stomy Bugsy, j'ai un peu de temps.
Ouais, t'as du temps, ouais.
Stomy Bugsy sort un morceau qui s'appelle Hardcore. Moi, tu sais à quel point j'aime le rap, ouais. J'aime le bon rap. Et j'arrive dans les bureaux du studio de Passy. J'écoute ce morceau. Et c'était l'époque où, en fait, au State, c'est notre culture, elle est comme ça. Dès qu'il y a un morceau qui sort, qui est bon,
il y a le remix.
Et moi, je dis à Stomy Bugsy, ce morceau-là, vous êtes devenus des artistes très, très mainstream. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus crédibles ou ces mots un peu, tu vois. Vous êtes mainstream, mais nous, on est un peu en dessous. On est un peu espèce de garde-fou. Donne-moi ce morceau, donne-moi un budget et je vais te faire un remix, mais une tuerie. Il me dit, OK, il me donne le budget. J'invite Alpha 520, légendaire Alpha 520 du ghetto, Fabulous Gang. J'invite James Capage du 93. J'invite Lino. J'invite Tequila, son petit frère, le petit frère de Lino. J'invite Despo Routi. J'invite. Je pense avoir oublié personne. Moi-même, j'ai pas voulu poser. Je fais juste le refrain. À ce moment-là, je venais de me faire opérer des cordes vocales.
D'accord.
J'avais des polypes. Et du coup, j'ai cette voix un peu très comme ça et tout. Et je fais le refrain. Hardcore, Stomy, Porc, t'es fort. Et j'introduis chaque artiste. Et à la fin du morceau, on est en 2007. À la fin du morceau, c'était la période où Doc Gynéco était, comment dire, en lien, en contact avec le président de cette époque-là, Monsieur Nicolas Sarkozy. Et du coup, on avait reçu un peu cette situation-là comme une espèce de trahison. Et du coup, à la fin du morceau, quand je parle, je vais dire, j'ai pas envie de le répéter là pour ne vraiment pas gêner les gens qui nous écoutent, et puis surtout c'est pas beau et c'est quelque chose que je regrette, et je l'insulte, Bruno Bozir, donc connu sous le nom de Doc Gynéco. Donc c'est la jeunesse et c'est l'époque et tout, voilà, tu nous as trahi, le rap que nous on fait, il a rien à voir avec le rap des gens comme toi qui trahissent entre guillemets le code. Figure-toi, Mouloud, c'est très sincère, c'est vraiment énorme ce que tu me fais, tu m'offres là comme occasion. Il y a un an, sur mon Instagram, je reçois un message privé d'un mec qui m'envoie ce morceau-là. Il me dit, wow, je me souviens, Mystique, ce morceau, il était lourd, frère. Eh ouais, gros, ça, c'est le rap qu'on aime. Or, depuis ça, moi, j'ai eu le temps d'évoluer dans ma vie, de traverser tous les mois possibles pour enfin me trouver. Je regarde ce message et je montre à mon épouse. Je dis, tu connais pas cette histoire. Je lui raconte l'histoire. Je lui dis, waouh, j'ai honte. J'appelle Stomy. Je dis, Stomy, envoie-moi le numéro de Bruno. J'aimerais lui demander pardon. Parce qu'il y a quelques années, je l'avais insulté. Stomy me dit, mais t'es un ouf, Mystique. Ça s'est passé en 2007, on est en 2021. Je dis, frère, j'aimerais, si demain je dois fermer mes yeux, j'aimerais pouvoir dire à ce monsieur pardon. Stomy me donne son numéro. J'appelle. Et ça répond pas. Ça sonne. J'ai dû l'appeler une trentaine de fois. Et il y a à peine une semaine, il y a quelqu'un d'autre qui m'a reparlé de Doc Gynéco. Du coup, merci de me poser cette question. J'espère que quelqu'un lui fera passer ce message. Bruno, on n'est pas amis. On a dû se croiser une ou deux fois parce que nous étions tous les deux proches, du coup, toi Sectora et moi proche Sectora par rapport à Bissonabisso. Je te demande pardon. J'ai sali le nom de ta famille, au-delà de ta personne. Donc pour toutes les personnes qui écouteront ce morceau, écoutez ce morceau en ayant conscience qu'aujourd'hui, Mouloud Achour m'a donné la possibilité de dire pardon à Doc Gynéco.
Pourquoi tu t'es à lui dire pardon?
Parce que je pense que le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait déjà à soi-même. Et puis surtout, je pense aussi que grandir, c'est prendre conscience à un moment donné que les choses ne sont pas monolithiques comme ça. Et qu'il y a une vision du rap et qu'on ait plusieurs sensibilités traversées par cette musique et on peut la faire de la manière qu'on veut. En réalité, Doc Gineco a beaucoup apporté pour le rap français. L'acte qu'il va poser, cet acte politique que lui pose à ce moment-là, en réalité, je prends conscience, moi, en grandissant, mais en fait, c'est sa liberté. Et sa liberté, elle est sacrée. Et c'est son droit. Les incointances qu'il pouvait avoir avec le président de l'époque sont les siennes. Et moi, j'ai regardé cette situation-là à partir du milieu de l'écosystème rap et j'ai apposé sur lui un avis. Moi, j'ai aussi posé des avis politiques, même si je ne fais pas de la politique politicienne, tout au long de mon parcours artistique. Personne ne m'a insulté. Il y aurait pu y avoir des gens qui pensaient peut-être le contraire de ce que j'ai pu poser, comme tu as parlé tout à l'heure des 11 minutes 30 contre les lois racistes, tu as parlé tout à l'heure de, on aurait pu parler aussi des 16 minutes 30 contre la censure, de la sédition. J'ai émis des avis politiques. On m'a pas insulté pour autant. Donc je pense que grandir, c'est ça. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et puis surtout, j'ai la possibilité de pouvoir le dire. Je l'ai appelé au moins une trentaine de fois.
Réponds, Bruno.
Donc voilà. J'espère qu'il recevra en tout cas ce message de la manière la plus... La meilleure possible.
En tout cas, les dernières nouvelles que j'ai eues de Doc Gineco, c'est, figure-toi, qu'il travaille avec Rockin' Squat.
J'ai vu une photo il y a quelques jours. Eh ben, c'est magnifique. Tu vois, comme quoi, t'as vu comme quoi notre culture, comment elle fait naître des situations parfois inattendues.
Incroyable. Collaboration incroyable. Je te propose qu'on ferme la parenthèse du rap. Comme tu l'as fait dans ta vie, on a beaucoup parlé de rap. Dans un instant, on va parler justement de deuxième chance avec toi, Mystique.
Okay.
Mais on écoute quand même un morceau de ta playlist et c'est un artiste qui nous a quitté, qui nous manque, c'est Sean Price du Bootcamp Click et du duo Elta Skelta.
Exact.
On écoute Peep My Words.
Welcome. The name of this album is Monkey Bars, and I'm your host, Sean P. Sean P. What you about to witness here, my brother, is disgusting. It's ignorance at its finest. Peep my words. I'm better with mine. Sean Price, remember this time. I'm all at Jaw Tap, Paul Gregory Hines, Stratford the War. I got a package of raw in the ass crack of this hall with the passenger door. Y'all niggas is wagging, should be slapped with the four. Shit like that be attracting the law. Can't get knocked, better yet can't get shot. Bust a shot at the bad boy, can't be stopped. Listen to my old shit, they be like, damn, they hot. What happened to them niggas, man, they flop. Word, drinking and smoking, vice versa, smoking and drinking. I'm hoping these Lincolns add up, I ain't supposed to be stinking. Y'all niggas is far-sighted, didn't notice the kingpin. Up close in your face, bust toast in your face. Peep my words, words, heavenly words, words. Now your niggas locked up in 73rd. Peep my words, words. Heavenly words, words, that your niggas locked up, locked up, locked up. I'm busting the crons. Call me Ruckus Bichon's, the name that I choose to be called when I'm in front of my moms. Get it the fuck from in front of me, Paul. The number one stunner gunning for y'all. Listen, I got little guns that are straight pound your melon. Got big guns about the size of Mount St. Helens. Soon as I punch a nigga, he like, ouch, I'm telling. Gotta bounce down south with Welling. What up, cuz? I'm Sean Price, watch me lead the shit. Boot camp, no fatigues and kicks, nigga. Y'all niggas is fake, straight perpetrating the fraud. Give me the cake for I insert the eight in your broad. Scared to death, niggas going face to face with the Lord. Dumb out, bang your motherfucking face on the board. Fuck around and catch wrecking the spot. Scared to go pop, heckling cotch. Wrecking you're not fleffing the cops. Peep my words, words. Heavenly words, words. And your niggas locked up in 73rd. Peep my words, words. Heavenly words, words. And your niggas locked up, locked up, locked up.
On vient d'écouter un extrait de la playlist de Mystique. On est avec Mystique en studio. Il y a Mystique et la carrière d'artiste, mais il y a également Ghislain.
Oui.
J'aimerais qu'on parle de Ghislain.
Oui.
Donc, il y a eu la carrière de star du rap avec Léo, Léba, le Bisson Abisso. Et à un moment, Mystique laisse la place à Ghislain et Ghislain est incarcéré.
Erreur de parcours, des choses qui peuvent arriver malheureusement. Je suis en train d'écrire là-dessus. Mm. J'ai publié 4 recueils de poésie authentique, d'une rare authenticité. Et là, je suis en train d'écrire mon premier roman qui va s'appeler Triple Peine, où je raconte cette histoire. Il y a quelqu'un qui, un pote, avec qui je vais avoir un différend et qui va m'accuser de séquestration et enlèvement. Je me retrouve en fait incarcéré au Baumettes pour cette histoire et je prends 4 ans à la barre. Finalement, sur les 4 ans, je vais faire 2 ans. Sur les 2 ans, je vais faire 1 an plein et je ressortirai avec 8 mois de bracelet. Pendant ce séjour, je vais passer mon diplôme de formateur en atelier d'écriture. Je vais faire énormément de choses et puis j'ai tenté de retirer cette histoire, faire une requête pour retirer cette histoire de mon casier. Finalement, en discutant avec mon épouse et puis en voyant aussi la comment les jeunes pouvaient fantasmer sur la vie carcérale, je me suis dit, je vais laisser ça. Comme ça, à travers mes ateliers d'écriture, je vais pouvoir aussi témoigner de cette histoire et témoigner aussi que par moment, ben, on peut se retrouver dans des histoires un peu compliquées. Mais ce qui compte, c'est la manière de se relever, en fait. Voilà.
Est-ce que tu penses que ce mot « deuxième chance », on y croit quand on est à l'intérieur ?
Les choses ne sont pas faites comme elles devraient être faites, à mon sens, pour qu'on parle vraiment de réinsertion, par exemple. Il commence à y avoir des gens qui œuvrent depuis une dizaine d'années. Tu vois, des gens comme Berthé, à qui je passe les salutations, tu vois, qui fait beaucoup de choses, tu vois, dans le milieu carcéral. Moi-même, j'en ai fait énormément en région parisienne, dans le sud de la France. Et par l'art, par la culture, les gens s'évadent, mais l'évasion... Le temps d'un atelier, c'est bien, mais quand les gens ressortent, dans quel état ils ressortent ? Je pense que le vrai travail, c'est là qu'il se trouve. Et donc, il faut aller un peu plus loin que simplement de l'occupationnel.
C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. C'est quand on rentre, est-ce qu'on est meilleur en sortant ou pire en prison ?
Bah, tout dépend de pourquoi on est rentré, tout dépend de son histoire personnelle. Moi, en ce qui me concerne, j'arrive au Baumettes, je suis un rappeur de la région parisienne, et je me retrouve dans le sud de la France, à Marseille, au Baumettes, rappeur de Paris, OM, PSG, tu vois, les choses que tu connais. Moi, le foot, j'aime regarder, j'aime jouer avec les potes, mais les histoires de club, je suis pas du tout là-dedans. Et tout de suite, ben, parce que j'ai été vrai depuis le début dans ma musique, ben, y a aussi une certaine considération qui s'installe, et je vais avoir une certaine manière de vivre ma peine. Mais c'est vraiment une démarche personnelle de est-ce qu'on y rentre, est-ce qu'on y ressort plus positif ou pas. C'est vraiment une démarche très, 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 très personnelle. Moi, j'ai réussi en tout cas à profiter de ce temps-là pour faire un travail d'introspection qui était nécessaire à ce moment-là, parce que j'ai vécu un drame personnel très compliqué, et ce séjour m'a permis de faire ça, et ça m'a même ramené en sortant chez des gens comme Michel Onfray, des gens comme Catherine Camus, qui m'a reçu à Aix-en-Provence, chez elle à Lourmarin, par exemple.
Aujourd'hui, c'est quoi ton métier ?
Aujourd'hui, je fais de l'art thérapie.
Alors, c'est quoi l'art thérapie ?
Alors, moi, je suis formateur en atelier d'écriture. Ce que je fais, ça c'est de l'art-thérapie, mais j'ai pas le diplôme d'art-thérapeute. Voilà, après les diplômes, tu sais, des fois, tu vois. Mais ce que je fais depuis une vingtaine d'années, après avoir été nominé en Afrique du Sud, meilleur groupe, Abisson Abisso, meilleur clip par Nelson Mandela, j'ai pris conscience, comme je te disais, de l'importance d'écrire, et j'ai décidé de transmettre à mon tour, de donner à mon tour l'opportunité à d'autres de se raconter, d'avoir conscience de ce qu'ils sont à travers l'écriture. Donc je travaille sur des axes tels que la valorisation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, et en ce moment l'un de mes axes principaux, c'est surtout le harcèlement scolaire, je travaille beaucoup là-dessus. La violence faite aux femmes, je travaille beaucoup là-dessus. Mon atelier adapté en fait à tout public à partir de 8 ans. J'interviens dans des collèges, des lycées, des maisons de retraite, dans des centres éducatifs fermés, dans des instituts thérapeutiques, éducatifs et psychologiques. J'ai travaillé à l'école normale sup. On fait appel à moi parfois pour intervenir dans des entreprises, pour la cohésion des équipes. On traverse une crise qui dure. Et je pense malheureusement qu'on n'a pas fini de comptabiliser les dégâts de cette crise. Et il y a des gens au Luxembourg, en Afrique, un peu partout en France qui font appel à moi. J'ai commencé aussi à mener des ateliers en fait par visio. C'est vraiment permettre aux gens d'être bien. Et pas l'écriture en tant que élément pour simplement se raconter, mais c'est aussi élément qui permet de simplement s'élever et prendre juste du plaisir avec l'acte d'écrire.
L'écriture, ça a aussi un rapport avec quelque chose dont on manque quand on est en situation de difficulté, c'est la dignité.
Ah, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot j'ai eu des moments dans ma vie où je me sentais pas forcément digne. Mmh. Il faut donner des pistes, il faut donner les moyens aux gens, même de leur dignité aussi, tu vois. Et notre culture hip-hop, c'est celle qui nous a permis aussi bien toi que moi de nous, comme ils disent les carrés, on est des self-made men.
Exactement.
En fait, tu vois. Et c'est cette culture-là qui nous a permis, je sais pas, si j'étais resté à Meaux, j'avais pas rencontré le hip-hop, si j'avais pas fait la plus belle des rencontres, c'est-à-dire moi-même. Mmh. Bah, je serais peut-être encore le pied collé au quartier ou enfourré, je sais pas dans quelle histoire, tu vois. Donc, je m'estime privilégié d'avoir connu cette culture de dépassement de soi, cette culture qui part de soi et qui touche l'universel. Aujourd'hui, on impacte le monde. C'est réel.
J'aimerais qu'on écoute un artiste qui impacte le monde actuellement et qui est en train de tout exploser. Il est dans la playlist de Mystique, qui s'appelle Mustapha de Poète et le morceau, c'est Ali. Ali Mustapha de Poète, choisi par Mystique. On a parlé de Mystique, star du rap. On est également avec Ghislain, qui sort des livres de poésie, qui travaille activement, qui amène l'écriture partout dans des ateliers et qui fait de l'art-thérapie. J'ai une question. Tu m'as dit que tu travaillais sur le harcèlement scolaire. J'imagine que tu recueilles plein de témoignages. Mmh. C'est quoi celui qui t'a le plus bouleversé?
C'est un jeune à Fréjus. Parce que je travaille à l'école de la deuxième chance, mmh, en tant que formateur. On a 4 sites en fait dans le Var. Et ce jeune-là, ben, il va rester enfermé chez lui pendant 5 ans. Mmh. Il sort pas. Les parents sont désœuvrés, ils savent pas quoi faire. Et puis finalement, il va intégrer en fait notre structure. Il faut avoir entre 16 et 24 ans. Moi, à travers dans cette structure-là, donc j'apporte ma contribution, c'est à travers l'écriture. Et je vais l'inviter, ce jeune va venir dans mes ateliers. Et tout le monde vient avec ce qu'il est, et puis on discute, et puis il y a une confiance qui s'installe. Je travaille à partir de l'émotion. Je vois un jeune qui est très enfermé dans son corps. Et puis, en discutant, puis un jour, je leur demande d'écrire un texte. Fallait rendre hommage à quelqu'un de leur entourage, parce que, comme toi, je pense qu'il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. Mmh. Et du coup, il écrit un texte. À la fin de l'atelier, il reste, il vient me voir et il me dit ce que tu lis là, ben... En fait, il se rendait hommage à lui-même des choses qu'il aurait aimé faire, mais qu'il n'a pas pu faire. Mmh. Et en fait, j'ai face à moi un jeune qui est muré, vraiment muré dans son corps. Et on ne se rend pas compte, en fait, de... Selon là où on a grandi, Mouloud. Moi, j'ai grandi dans un endroit, mon quartier, Beauval. Je sors de chez moi, je marche quelques mètres, je suis dans mon collège. La plupart de mes potes au collège, à la récré, bah, c'est les gens de mon quartier. Ceux qui sont en galère dans notre collège, c'est ceux qui viennent de très loin. Et moi, j'ai pas connu ça au collège, puisque bah, on était en supériorité numérique, on va dire. Mais ça part des fois par des petites choses, mais les dégâts que ça fait, c'est violent, franchement, c'est vraiment violent.
Et tu sais pourquoi ce petit est resté enfermé pendant 5 ans ?
Bah, parce que des... Il était, d'après certains, un peu efféminé. Et du coup, il correspondait pas à la norme. Donc des moqueries, des insultes. Il va y avoir aussi ce que les jeunes appellent la hagra. On va lui prendre des choses de force. Et souvent, ça se fait en groupe. Et puis, forcément, malheureusement, avec ça, il pense au suicide. J'ai eu la chance de participer là à un court-métrage avec un ami à moi qui travaille là-dessus. C'est ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui traversent ça. Là où vraiment, là, moi, je suis très touché, c'est sur l'impuissance des parents. L'impuissance des parents, parce que souvent, on va pointer du doigt les parents comme des gens qui ne savent pas accompagner leurs enfants. Mais eux ont besoin d'accompagnement, en fait. Ils ont besoin d'accompagnement. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui est muré. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un du jour au lendemain. Tu ne comprends plus ton enfant, qu'est-ce qu'il a. Et j'invite tout le monde à aller voir un film qui s'appelle, avec Michael Youn, qui s'appelle « Le jour où j'ai brûlé mon cœur ». Voilà, c'est un outil pour moi, c'est un outil pédagogique. C'est un livre à partir duquel je travaille sur ces questions-là, parce qu'il remet justement les responsabilités collectives. L'agresseur, la dite victime, le corps enseignant, les témoins, mais tout le monde a besoin d'un suivi. Tout le monde. Même l'agresseur, il a besoin de suivi, parce que pour être agresseur, peut-être qu'un jour il a été agressé lui-même, ou peut-être que comme on guérit rarement de son enfance, peut-être que lui-même il a encore des violences de sa propre enfance, pas encore soignées. Donc toute la société a besoin d'être soignée.
Mystique, quel conseil tu as à donner à un jeune qui peut se sentir victime de harcèlement scolaire, ou qui sent que ça va pas et qui peut passer de l'autre côté, et qui peut se diriger vers la délinquance dans un autre sens ?
Wow.
Parce que toi, t'as connu ça. Aujourd'hui, Mystique, toi, de par ton expérience, quel conseil t'as à donner à quelqu'un qui se cherche, à un jeune qui pourrait prendre le mauvais chemin ?
Tu sais, on a dans ce, pour répondre à cette question, soit cette question elle revient souvent. On a souvent tendance à dire oui, sois toi-même, parle, dis aux gens. C'est souvent des choses qu'on dit, en fait. Mais vraiment. Moi, je m'adresserais surtout à l'entourage, en fait, d'aller au-delà de ce que vous percevez. Et que souvent, dans nos familles, on se voit et on ne se regarde pas. Ce n'est pas pareil. On s'entend, mais on ne s'écoute pas. Et le silence, il dit tellement de choses. Et un enfant qui devient de plus en plus taciturne, ben, derrière se cache peut-être un drame. Donc, vraiment, soyez attentifs, soyez... j'ai pas le mot. De faire attention, en tout cas, de vraiment de faire attention. En tout cas, aux jeunes qui vivent des moments compliqués, avant tout, je te dirais, ce n'est pas un crime d'être toi. Quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les complications existentielles que tu traverses, elles peuvent prendre du temps. Ça prend du temps pour enfin se trouver, mais surtout, ce n'est pas un crime d'être toi.
C'était un message de Mystique. Mystique qui est venu avec une playlist dans Verven Underground, et on écoute Shadé avec Morning Bird.
you are the river. Pour out of this life. How could you? You are the morning bird who sang me into life. Every day fly away. You are the blood of me, the harvest of my dreams. There's nowhere I can find peace, and the silence won't cease.
Nothing's quite how it seems.
On vient d'écouter Shadé, choisi par Mystique, notre invité. Avant de nous quitter, Mystique, j'ai une question. À chaque fois qu'on reçoit un message de Mystique, ça commence par « Salutations ensoleillées
». Salutations ensoleillées à toutes et à tous. Bah écoute, c'est oui, simplement, je pense, c'est une distinction. C'est une manière un peu de se distinguer tout le monde. Et c'est une manière aussi d'insister sur ce que je te disais tout à l'heure. Même dans nos propres familles, des fois, ça arrive. On se dit bonjour, on se dit ça va. Mais le ça va, est-ce que c'est un ça va? Est-ce que je te regarde droit dans les yeux? Je te dis, Mouloud, ça va? Tu vas bien? Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et salutations ensoleillées, c'est une manière un peu de se distinguer un peu sur les réseaux. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup d'agressivité. Tout le monde se donne le droit de donner un commentaire. Tout le monde est spécialiste de quelque chose. Et ma manière à moi de me distinguer, c'est je me prétends être un ambassadeur de la positive énergie. Donc pour me distinguer de ça, pour moi, mes réseaux sociaux, c'est un outil pour faire fleurir en tout cas de la positivité. Donc je commence toujours une vidéo par salutations ensoleillées à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Et
donc avant de te donner mes salutations ensoleillées également, où est-ce qu'on peut te suivre?
Pour me suivre sur Insta, ouais, c'est Mystique-officiel. Sur Facebook, c'est Ghislain Loussingui. Et puis mon site, ghislainloussingui.fr. J'ai publié 4 recueils de poésie magnifiques. Un premier qui s'appelle The Story of My Heart, Punch Life et Poésie, qui raconte les tribulations de mon cœur. Un deuxième qui s'appelle Trace, qui célèbre un peu mes 30 ans de vie depuis que je suis arrivé en France. Un troisième qui s'appelle Poésie Confinée, dans lequel je raconte comment moi j'ai vécu ce moment particulier pendant cette pause qui nous était imposée. Et le quatrième, le tout dernier, s'appelle Librement Noir, écrit juste après le drame de George Floyd. J'ai voulu, au lieu d'être dans l'index, au lieu d'être dans l'insulte, au lieu d'être dans la colère, parce que je trouve que la colère est mauvaise conseillère, j'ai voulu écrire un livre pédagogique, un livre qui permette aux gens de traverser de manière très intime ce qu'un noir peut vivre.
Mystique, merci d'être venu.
Merci à toi.
Merci aux frères qui sont venus avec toi. Merci pour le suite la basse-cour.
Si, si.
Je rappelle que le morceau Qui veut de la peau de la basse-cour, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et dédicace à tout ce collectif merveilleux du 93. La basse-cour, merci beaucoup, Mystique. Je te souhaite tout le meilleur.
Merci beaucoup, mon frère.
T'es ici chez toi. Vous pouvez réécouter le podcast partout sur toutes les plateformes. Verven Underground et la discographie de Mystique, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain sur Europe 1.